Merci beaucoup. J'ai une question sur la sociologie du sourire.
Ah oui.
Le sourire est-il un rire à part entière, comme l'avait rapidement suggéré, en rattachant le sourire au rire des classes populaires par rapport au rire franc des classes populaires? Ou est-il autre chose que le rire? Dans ce cas-là, au-delà de la frontière du rire, où commence le rire, où s'arrête-t-il?
Ouais, je réponds au fur et à mesure.
Ouais.
Alors, le sourire, effectivement, c'est le rire, mais c'est le rire, mais sans la dimension vocale, enfin, physiologiquement, je veux dire. Mais bah, c'est pas codé de la même manière culturellement. L'anoblissement du sourire, c'est la Renaissance. Il y a plein de travaux là-dessus. Hein. C'est la Renaissance. Le fait que le visage humain se rationalise, l'expressivité s'intériorise, et donc le sourire, c'est une espèce de rire conversationnel. Donc, c'est pas, comment dire, tout à fait autre chose que le rire. Mais y a des différences, quoi. Il n'y a pas la dimension vocale, y a la dimension plus relationnelle, et puis c'est plus individualisé aussi, le sourire. Donc effectivement, il y a des différences aussi, ouais. Mais je vous renvoie, là, sur le sourire, il y a Claudine Arroche qui a fait un beau bouquin sur, je ne me rappelle plus le titre, sur la rationalisation de l'expressivité au 16e, enfin, à partir de la Renaissance et jusqu'au 17e siècle, où on voit émerger cette place centrale du sourire chez les courtisans, etc. L'anoblissement, vraiment l'anoblissement du sourire. Parce qu'il n'y a pas la dimension vocale, donc on importune pas l'autre quand on sourit, au contraire, on facilite la relation avec lui, on l'intègre dans une discussion, alors que le rire est vu comme quelque chose de plus agressif, de moins participatif, et de... Donc les significations culturelles associées aux deux, même si on pourrait dire bah, le sourire c'est juste le rire sans la dimension vocale, n'est pas du tout la même, effectivement.
Moi, j'avais une question sur le fait que depuis le début, j'ai l'impression qu'on parle un peu de deux rires différents, dans le sens où il y a le rire comme manifestation physique, comme réaction physique spontanée, et un peu quelque chose qui ressemble plus au sentiment du drôle, ou quand on parlait de Molière, ou quand on parlait de Flaubert, je ne sais pas si des gens, en lisant Flaubert, s'esclavent de rire, mais ils ont le sentiment du drôle, ils savent que c'est drôle, ils ont été socialisés quand on a beaucoup sur le rire. Mais donc, je voulais savoir si vous aviez envisagé un peu cette dualité. Et notamment, comment vous avez mené votre enquête, parce que, d'après ce que j'ai compris, c'était beaucoup une analyse de réception d'œuvres humoristiques. Mais est-ce que vous avez également assisté, je sais pas, à des discussions entre groupes d'amis ou à des discussions pour voir justement d'où venait le rire dans des contextes hors œuvres humoristiques ou œuvres censées faire rire?
Oui. Ben, vous avez raison. En fait, il y a le rire spontané, le rire, vous dites réaction corporelle spontanée, dont on sait par des travaux de psychologues que c'est l'essentiel de nos rires, et le rire associé au sentiment du comique. Et moi, mon parti pris, c'était vraiment d'étudier ça. Je savais pas trop quoi raconter sur le rire comme réaction. Je sais pas, un peu de nervosité ou comme moyen de combler un truc dans la conversation ou de voilà tout ce rire un peu de facilitateur relationnel, des choses comme ça j'ai moins étudié et vraiment j'ai mis l'accent sur le rire comme associé au sentiment du comique comme vous dites ou à la drôlerie, je sais plus ce que vous avez dit, mais c'est ça. Et en plus parce que je voulais avoir des supports quoi à partir desquels faire raconter aux gens les moments de rire. Et ce que je voulais, c'était attraper toutes les questions de... Je voulais pas faire un truc goffmanien sur le rire dans les interactions et tout ça. Je voulais vraiment attraper les dimensions de hiérarchie, comme disait Kevin tout à l'heure, c'est-à-dire en fait l'enjeu, c'est de voir comment les structures sociales sont ressenties par les individualités expressives, quoi. Donc moi, j'avais vraiment ça en tête et je me suis dit, bah, faire parler les gens à partir de support comique identifiable, c'est quand même plus simple aussi hein, dans l'enquête. Hein. C'est plus simple quand il y a un domaine circonscrit un peu institutionnalisé, parce que la pratique est tellement pas institutionnalisée, ça permet d'atterrir sur un support stable, quoi. Donc oui, effectivement, ça a été un choix d'enquête dès le départ. Ça.
Parce
que du coup, en lien avec cette question, je me demande si vous avez dit que le rire, enfin, des enfants, c'était surtout le quatrième rire, en gros, le rire.
Enfin, le rire quand il n'y a plus les automatismes corporels. Et que, en fait, est-ce que ça serait pas parce que ce rire-là, c'est le rire un peu de réflexe, alors que l'autre rire, c'est un rire dans le sens de l'humour qu'on a appris. Du coup, si les enfants, ils rigolent de ce qui est un peu du bas corporel, de la réaction physique, en gros, et que ça explique que ce soit les enfants qui rient plus de ça, vu que...
Alors moi j'ai que des hypothèses là-dessus parce que encore une fois j'ai pas interviewé les enfants directement, il faudrait le faire, hein. Franchement il y aurait une très belle enquête à faire là-dessus. C'est pourquoi les enfants, c'est ce que disait Kevin tout à l'heure, ben, ils sont plutôt sur le quatrième type de comique. Moi je pense tout simplement parce que ils sont en apprentissage de la station verticale, de la posture verticale du corps humain. En fait la bipédie, se tenir droit, etc. c'est un apprentissage, c'est à la fois c'est une histoire évolutive très longue. De tout maille à nos jours, quoi. C'est de 8 millions d'années à nos jours. Enfin, c'est une longue histoire évolutive. Et à l'échelle individuelle, se rejoue cette histoire-là. Ceux qui travaillent sur ça, sur l'origine de la bipédie, et qui ont travaillé sur les postures des enfants, ils nous disent que c'est un apprentissage difficile. Enfin, difficile. C'est un apprentissage assez long, qui doit être soutenu par les encouragements des parents. Et j'imagine que parmi vous, il y en a certains qui ont des enfants, et ben, jusqu'à 6, 7, 8 ans, ils se cassent régulièrement la figure. Hein. C'est long comme apprentissage. Et il y a des peurs associées à ça. Et donc, pour moi, tout simplement, c'est le schéma freudien, en fait. C'est l'apprentissage de la posture corporelle, de la station redressée, d'une visibilité, d'une exposition aux autres à assumer. C'est quand même pas rien, quoi. Et ben, c'est associé à des peurs. Et donc, toujours ce mécanisme de retournement, de la peur en plaisir, je pense. Et quand on chute, et sans dommage, quoi, c'est un espèce de... Le rire vient décharger, un espèce de soulagement. Et d'ailleurs, le rire, on mime en fait quelque part la chute de l'autre parce qu'il y a un relâchement de tonus musculaire dans le rire. Au niveau physiologique, le lien. Donc pour moi, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est après, à voir. C'était compliqué à tester en entretien aussi. Mais effectivement, les enfants adorent ça. Hein. Oui, ça, c'est le... mais c'est quelque chose qui, à l'âge adulte, se retrouve aussi.
Pour moi, je n'ai pas travaillé dessus. C'est pas mon sujet principal. Moi, je travaille sur la même amitié. Mais ce qui est sûr, c'est que chez les enfants, ce qui est sûr, non, c'est pas sûr du tout, mais ce que j'ai remarqué de tout à l'heure, on disait que c'est quelque chose d'important, le rire, parce qu'en fait, ça fait partie du métier d'enfant. Rigoler, c'est comme jouer. C'est quelque chose de très important. Et au départ, ils ont moins les catégorisations sur le rapport au pouvoir, les choses comme ça, parce qu'ils l'apprennent progressivement. En fait, on peut pas rire de quelque chose qui est difficile, qui ne fait pas sens directement. C'est comme pour une œuvre d'art. Si on n'a pas de quoi décoder, c'est difficile qu'on lui mette un sens. Donc, il y a des choses qui sont difficiles. Et parfois, moi, ils venaient me demander, par exemple, sur des choses aussi simples. Il y avait quelqu'un qui, soit ils avaient fait une blague, soit ils pensaient que c'était méchant, mais c'était ou c'était des choses, juste, ils n'arrivaient pas à décoder la situation parce que ça demande aussi un apprentissage de ce que doit être une interaction, de ce qui est, quelle forme ça doit prendre, comment on réagit, etc. Donc, il y a ça. Et le truc le plus facile aussi, mais je pense parce qu'on les a formés aussi à ça, c'est quoi la plupart des choses qu'on leur montre et qui sont drôles dans les films? Si c'est pas quand les personnages principaux font des bêtises, se cassent la figure, il y a aussi ça, on leur apprend plus facilement, mais aussi ça n'empêche pas que les autres soient présents. Ce que je disais tout à l'heure dans le bouquin de Lahir, il y a cette volonté là de, mais en fait c'est du langage. Encore une fois, là c'est un souci de pouvoir jouer avec les mots. Ça c'est au-delà de, je pense que c'est moins, enfin je pense pas que ce soit pour une volonté de faire apparaître des dispositions au rire ou choses comme ça, plus que des dispositions à, enfin ce serait du larros, c'est-à-dire une sorte de hobby qui est scolairement rentable. Je pense qu'il, bah après moi je sais pas, j'ai pas fait ça, mais dans cette forme là c'est pour ça que je pense qu'au départ c'est juste, enfin c'est dur de maîtriser les codes. C'est là où on voit qu'ils apprennent. Il y a plein de fois où ils viennent, enfin si vous allez dans une école, les enfants vont venir vous voir pour vous demander de donner sens à l'interaction qui vient de se passer. En fait, à un moment, il y avait un couple, le mec a été horrible, enfin vraiment, il a dit des choses qui était pas sympa, et en fait elle savait pas comment réagir. Et juste parce qu'elle savait pas, est-ce que c'était vraiment méchant, est-ce qu'il le disait pour rire. En fait c'était dur à appréhender, et ce qui est pas facile. Enfin, nous ça nous semble une évidence maintenant parce que on a un certain nombre d'années de socialisation qui fait que ça fait corps avec nous, mais pour les enfants, je pense que c'est moins le cas. Et encore une fois, celui qu'on présente le plus, c'est celui-là aussi. Enfin, je reste persuadé. Enfin, voilà.
L'humour qu'on montre le plus aux enfants, tu veux dire le comique qu'on montre le plus aux enfants.
Ouais.
Oui. Ouais. Oui, mais c'est pas pour rien qu'on montre celui-là. Je pense qu'il y a vraiment, c'est lié aux apprentissages, quoi. C'est le moment de la vie où l'apprentissage de la station verticale, les apprentissages autour de ça sont les plus intenses et où les attentes des parents vis-à-vis de la station redressée sont importantes, quoi. Donc ça crée une angoisse aussi. Et cette angoisse est surmontée dans le rire, je pense, hein.
Moi, ça va rebondir un petit peu sur la question qui a été posée juste avant. Moi aussi, j'étais un peu intriguée sur le fait de dire que le rire est une émotion, parce que je me disais, est-ce qu'on dirait que pleurer, c'est une émotion? Et je me demandais si même l'utilisation que tu fais de la biologie évolutionniste, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut arrêter de dire nature d'un côté, culture de l'autre, que pour enfin arriver à raisonner autrement, et tu as bien dit qu'il y avait de l'implication, etc. Mais à t'écouter, quand tu parlais du bébé, là, qui coucou-beu, là, ça m'a fait penser à un article d'Elias qui dit finalement, les bébés, ils sourient, et ils sourient pas du tout parce qu'ils sont contents, en fait. Ils sourient, parce qu'ils sont bien, ils ont bien mangé, etc. Et en fait, c'est à force de voir les en fait, il y a un chapitre où il parle du sourire chez les bébés, et il dit un bébé sourit pour plein de raisons. Et en fait, c'est à force de voir ses parents qui s'extasient parce qu'il sourit en direct, les parents qui envoient des photos du bébé à la maternité en disant « Oh, il est content, il sourit ». En fait, pas du tout. Mais le bébé, l'enfant va apprendre à sourire pour manifester qu'il est content. Parce qu'il voit que ses parents…
Ils sont en attente de ça, oui.
Je me demandais si ton exemple de l'enfant qui rit parce qu'il reconnaît sa mère, est-ce que ce qu'il exprime, c'est la même chose que effectivement de lire Molière ou quoi? Est-ce que c'est pas juste… Enfin, voilà une forme d'être rassuré, comme tu l'as dit, mais que finalement, nous, de notre position d'adulte, on va dire, oui, c'est une émotion, et on va la mettre avec une autre émotion qui n'a rien à voir, mais parce que la manifestation physique est la même, tu vois. Et je me dis, c'est comme pleurer, tu vois, on peut pleurer, mais parce qu'on est content, parce qu'on est ému, parce qu'on est triste. Et est-ce que, du coup, partir de la manifestation physique, ça n'emmène pas parfois à… tu vois, à mettre des choses ensemble qui ne sont pas les mêmes émotions. Voilà,
Est-ce que tu veux dire quoi, du coup, qu'en fait, le signe physiologique, en fait, il a plusieurs significations possibles?
Oui.
Bah, après, moi, sur le truc du cache-cache, là, je pense que, bon, tu vois, dans la psychologie du développement, c'est assez développé, cette histoire-là, on crée une peur, on suscite une peur, puis la peur disparaît, il y a un effet de soulagement qui est exprimé dans le sourire, etc. Mais bon, le sourire des enfants, les sourires des tout petits, sourire, comme on dit, sourire aux anges, c'est un sentiment quand même de réflexion, de bien-être, tu vois, c'est associé à ça quand même, on le dit. Tu vois, il y a du compte.
Tu as une manifestation physique et tu as sourire parce que tu es bien, c'est pas la même chose que sourire parce que tu es content, en fait. Et sur le rire, je trouve que c'est encore plus.
Mais pourquoi, en fait, quelle différence tu fais, toi, parce que tu es bien, parce que tu es content?
Tu peux être bien sans être intentionnellement content.
D'accord. Ah, tu veux dire qu'après, il y a la manifestation publique, en fait, il y a la publicisation de ton état, quoi, c'est ça?
C'est vraiment, enfin, je trouve que si tu mets sur les pleurs, je trouve qu'on voit mieux l'analogie, en fait. C'est que, est-ce que sur les rires, c'est pas comme sur les pleurs, une même manifestation physique, mais avec derrière des émotions qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'était sur l'idée du rire comme une émotion. Mais je pense que ça rebondit sur la question.
Tu veux dire, en fait, c'est pas le rire, il ne faudrait pas dire du rire que c'est une émotion, c'est un signal pour d'autres types d'émotions, c'est ça? Et ça peut être… Oui, je vois ce que tu veux dire, mais du coup… c'est assez intéressant parce que le rire, ça peut être aussi, enfin, tu vois, je disais, je sais pas si tu étais là, Christine, mais les biologistes disent le rire, c'est un signal honnête, c'est un moyen d'être transparent sur la qualité de ses intentions, alors qu'on pourrait aussi se dire, mais non, en fait, c'est plutôt un moyen de brouiller le truc, parce que justement, c'est référable, enfin, c'est un signe qu'on peut référer à beaucoup de types d'émotions différentes. Et donc, dans un contexte public, dans un contexte d'interaction, etc., rire, c'est peut-être un moyen aussi d'introduire du flou sur les émotions qu'on est en train de ressentir. Alors après, pour le bébé, évidemment, c'est pas ça, hein, mais bon, oui, c'est cette idée qu'il faut dissocier signe et signification, quoi. Sur le bébé, après, sur le contentement, bon, moi, je rapporte un peu, encore une fois, j'ai pas du tout enquêté là-dessus, mais je rapporte un peu sur ce que j'ai pu lire, quoi. Cette idée que voilà, puis le sourire, c'est aussi le sourire des bébés, bah c'est comme tu dis, c'est l'interaction avec les parents qui le suscite, quoi. Donc il y a un apprentissage. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le sourire précède le rire chez les enfants.
Merci pour la présentation. Moi, je voulais un peu revenir sur l'aspect un peu plus pratique de la thèse. Je me demandais un peu, du coup, comment c'était organisé les différentes années, du coup, de 2007 à 2016, si j'ai bien retenu, je ne suis pas sûre.
Ouais.
Et comment s'était passé l'aspect plus terrain et entretien, voilà, enfin, en plus de l'aspect méthodo et organisation.
Oui, bah alors, les aspects terrain, en fait, j'ai fait des entretiens quasiment jusqu'au bout, quoi, parce que c'est tellement... C'est tellement des fois indécidable, quoi, la signification d'un rire. C'est un peu la discussion d'avant avec Christine. C'est voilà, on a un signe physiologique, mais qui est référable à des émotions différentes, quoi. Donc on a besoin de faire expliciter par le rieur lui-même les émotions qui sont associées à ce signe. Voilà. Et donc il y a un boulot de terrain, c'est assez fort là-dessus, hein. Enfin, j'ai pas forcément fait beaucoup d'entretiens, j'en ai fait une petite quarantaine, mais par contre très long, parfois répété, parfois 10 ans d'intervalle, pour saisir justement des trajectoires. Et donc l'idée, c'était de m'appuyer, alors effectivement d'aller voir des gens et leur demander, racontez-moi quelle occasion vous riez, etc. C'est assez déroutant. Donc avoir des supports comiques pour introduire le sujet, c'était plus simple pour faire parler les gens, quoi. Donc d'où l'idée de faire une enquête de réception sur les œuvres culturelles comiques, etc. Et de ne pas enquêter sur les manières de rire les plus informelles. Et après, par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a des habitudes de verbalisation liées au rire, liées au fait que le comique, c'est un des genres les plus consommés, tout naturellement, et que le comique est vu et revu souvent, hein. Christine, dans son livre sur les mangas, elle dit bien que les manières de lire sont pas forcément enfin, on ne peut pas les déduire du niveau de légitimité des œuvres. Là, le comique, ce n'est pas légitime, mais pourtant, c'est des œuvres qui sont vues et revues. Les gens sont imprégnés de dialogues, etc. Ça a une valeur communicationnelle d'emblée, ce capital culturel comique. Et donc, ils sont capables de restituer quasi parfois par cœur, même dans certains milieux populaires, des passages entiers d'œuvres drôles. Voilà. Et donc, moi, j'ai essayé de voir ça dans un premier temps, leur rapport aux œuvres comiques. Je pensais vraiment m'en tenir à une enquête de réception. Je ne me voyais pas aller vers la biologie évolutionniste, vers l'anthropologie. De faire des lectures sur la bipédie, pour moi, c'est arrivé en fin de thèse, ça. Au début, c'était vraiment une enquête de réception, mais quand même avec l'idée de regarder les analogies entre les rieurs et les œuvres culturelles qui les font rire. Parce que dans toute la sociologie de la réception, on nous dit il y a l'analogie, et on sait avec Bourdieu que le fonctionnement analogique de l'habitus, l'habitus, son fonctionnement est analogique. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça des œuvres de sociologie de la réception où on voit vraiment les liens entre les rieurs. Enfin, entre ceux qui consomment la culture et puis les supports culturels. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ce job-là. Et puis après, bah, je me suis rendu compte, oui, rire, c'est reconnaître, et toutes les implications qu'il y avait derrière. Et je me suis détournée, c'est un peu ce que j'ai raconté au début, de la philo, des lettres et même de l'histoire, pour aller vers des choses plus généralisantes. Voilà.
Moi, du coup, j'avais une question juste pour rebondir sur la question de Nour. Est-ce que vous avez observé, enquêté des interactions, des gens rient, en fait, où c'était vraiment basé sur les discours de ces gens par rapport aux œuvres comiques que vous proposez. Oui. Il y avait aussi tout un aspect d'observer le rire en train de se manifester.
Oui, bah alors j'ai pas fait ça en fait. Hein. Il y a des enquêtes, hein, Robert Provine aux États-Unis, de psychologues. C'est plutôt la psychologie qui travaille comme ça par observation sur le rire. Et on va nous dire la taille des groupes où ça rigole beaucoup, c'est des hommes, c'est des femmes, des choses comme ça. Mais moi, j'ai pas fait de l'observation en situation, hein, vraiment pas. J'ai enquêté a posteriori en m'appuyant sur ses habitudes de verbalisation au maximum pour faire expliciter les scènes comiques, faire raconter les scènes comiques, les détails qui font rire, voilà. Non, j'ai pas enquêté sur l'observation pour la raison un peu qui a été soulevée par Christine, hein, c'est-à-dire en fait le sens du rire à partir du signal rire, il est indécidable. Il faut vraiment aller demander aux gens quelles sont les émotions associées à ça. Et on se rend compte qu'il y a qu'en arrière-plan émotionnel, là, il y a beaucoup d'émotions qui sont possibles. Et que peut-être que la spécificité du rire, c'est d'exprimer des ambiguïtés émotionnelles, des ambiguïtés affectives. Quand il
Vous
y a
avez pas non plus.
deux émotions, quand il y a deux émotions comme ça, contradictoires, je pense à des gens transfuges de classe qui me racontent qu'ils adorent les des chiens. Il y a deux émotions contradictoires. Il y a à la fois la honte de se reconnaître et en même temps la joie de retrouver des milieux familiers. Eh ben, ce qui permet d'exprimer ces tensions-là, ça va être le rire, des ambiguïtés affectives. Mais vraiment, j'aurais pas su comment faire à partir de la seule observation. J'aurais pas su quoi dire à partir de ça. C'est vraiment, je voulais voir aussi comment les hiérarchies du social, voilà, viennent se manifester jusque dans les fragments les plus fins, quoi, de la vie sociale. C'était ça qui m'intéressait. Donc je voulais attraper ces histoires de hiérarchie, de trajectoire, faire raconter d'où on vient, comme dit Hogarth. C'était important pour moi.
C'est un peu dans la continuité de cette question, mais est-ce que vous n'avez pas même analysé le rire dans les entretiens? Parce que moi, je suis en train de
Ah
retranscrire mes
si,
entretiens et on rit beaucoup.
oui.
Et à chaque fois
Ici.
qu'on rit, c'est plutôt pour dire. Alors moi, je travaille sur les parcours des personnes trans d'ascendance Nord-Af. Et du
Ouais.
coup, quand les gens rient, c'est surtout pour dire des choses terribles, en fait. Enfin,
Ah
vraiment.
bah oui.
C'est vraiment associé à ça. Du coup, plutôt un des types qui a été mentionné tout à l'heure,
Non,
du
mais
rire
bien
un
sûr.
peu autoritaire, etc. Mais
Non,
voilà,
mais
du coup, enfin, il y a vraiment une place dans l'entretien à ça, j'ai l'impression.
il y a plein de rires dans les entretiens. Oui, il y a plein de rires dans les entretiens. Alors, à la fois, ça peut être parce que la personne, elle revit la scène qui l'a fait rire. Et donc, elle se replonge dans la situation, ça la fait rire et c'est un rire franc, et voilà. Et en même temps, parce que justement, le rire touchant à des parties intimes de soi, en faire état devant un sociologue qui fait pas partie du premier cercle de proximité, etc., il y a des aspects de gêne ou de honte ou de qui sont, enfin, qui sont, comment dire, maîtrisés dans le rire, quoi, qui sont plus maîtrisés dans le rire. Donc, effectivement, oui, dans les entretiens, oui. Et puis aussi, il y a aussi tous les gens qui se composent un portrait de soi en rieur, hein, qui veulent faire valoir leur statut de non pas je consomme passivement du comique, le comique que l'on trouve, comme disait Freud, mais le comique que l'on trouve, mais le comique que l'on crée, donc la capacité en entretien à faire rire, voilà, oui. Il y a dans les entretiens, oui, c'est beaucoup ça. Surtout dans le milieu supérieur, comme vous pouvez l'imaginer.
Oui, je me demandais par rapport à la question du genre aussi, bon, on a un petit peu abordé ça, mais comment est-ce que potentiellement il y a des rires genrés où le genre lui-même, l'objet du rire, structure l'expression publique, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé?
Ouais, il y a tout un chapitre sur le genre. Je le traite dans le cas du rire comme acte de catégorisation. Donc, c'est-à-dire, il y a trois manières, en fait, il y a trois déclinaisons possibles de cette utilisation du rire comme acte de catégorisation. Il y a transformer le proche en lointain. Donc, donc là, dans le cas du genre, on se dit, bon, bah, il y a proximité des genres, on vit ensemble, etc. Mais il faut être au clair sur ce qu'on appelle le proche. Il y a inversement, il y a la transformation du lointain en proche. Et après, il y a aussi tout ce qui est refus des assignations de genre. Alors, le proche, souvent, en fait, c'est intra-genre. C'est-à-dire que c'est des manières d'incarner la féminité ou la masculinité qui sont mises à distance. Moins, enfin, évidemment qu'il y a du rire misogyne, etc. Mais même dans le rire misogyne, prenons le rire misogyne, ben, en fait, quand on va creuser en détail, on se rend compte que c'est parce qu'il y a une forme de proximité qui est vécue comme menaçante et qui crée une urgence à se séparer. Alors, je prends un exemple pour être plus clair, mais j'ai en tête un enquêté qui fait partie du milieu populaire, ascension vers les petites classes moyennes, Et donc, lui, il aime Billard, il aime bon, tout ce que vous pouvez imaginer, un rire assez sexiste. Coluche, il aime les rires sexistes de Coluche. Enfin, il retient les sketchs un peu moniques et tout ça de Coluche. Et en fait, on se dit, mais bon sang, ce gars-là, par ailleurs, de gauche, syndicaliste, revendiquant une certaine égalité en toutes choses, bon, bizarre qu'il assume ça comme ça. Et en fait, quand on regarde dans sa biographie, on voyait que dans sa trajectoire d'ascension scolaire, d'ascension familiale, il y avait tout un effort pour coopérer avec sa femme sur la question des enfants, c'est-à-dire... les enfants, bah, eux, ils venaient de milieux populaires, il y avait un investissement éducatif énorme sur la scolarité des enfants et une nécessité constante de se mettre d'accord sur le cadre familial, ce qu'on veut pour les enfants, etc. Donc, je sais pas, la maman, elle voulait pas que les gamins aillent faire du foot, lui, il aurait aimé, et ben, tant pis, il s'alignait sur les désirs de sa femme parce qu'il voyait que dans le cas d'une ascension scolaire, ça pouvait avoir du sens. Et donc, la nécessité d'en rabattre en tant que père de famille, voilà, pater familias dans la famille, et au niveau des statuts, un rapprochement avec sa femme qu'il vivait comme menaçant. Et donc, là, le proche était transformé en lointain, quoi, hein. On met à distance une menace de féminisation, quoi. Par exemple, ça, dans leur trajectoire scolaire, dans la trajectoire familiale ascendante, il y avait aussi l'idée que sa conjointe, elle travaillait, donc il était pour et tout, mais ça impliquait pour lui de faire la cuisine, d'avoir une division du travail sexué moins inégalitaire, etc. Et on voyait que ça lui pesait. Et donc, il y avait une espèce de féminisation rampante, pas du tout dans l'apparence corporelle ou je ne sais quoi, hein, mais dans la division du travail, dans la prise de décision, dans la manière de gérer les enfants, en vue de la station scolaire, qui était vécue comme nécessaire pour l'ascension scolaire, mais en même temps menaçante pour l'identité de genre. Et donc, il y avait besoin de transformer de cette proximité du féminin, de la mettre à distance. Inversement, il peut y avoir le lointain rapatrié dans la sphère de la proximité, dans le rire sexiste. Donc, par exemple, je ne sais pas, on va rire des salopes parce que le potentiel de désir féminin est vécu comme... comment dire, du lointain, c'est-à-dire on a plus la main sur la sexualité des femmes, et rire des femmes en tant que salopes, ça permet de les ramener vers soi, enfin, de réaffirmer ses droits sur la sexualité des femmes. Et il y a un troisième cas où, en fait, bah, le rire, les ressources propres au comique et au rire sont utilisées pour refuser les assignations de genre. Et ça, c'est tout ce que vous connaissez sur les identités multiples, sur voilà, les différentes manières d'incarner le genre, la déritualisation des genres. Voilà. Et ça c'est très en vogue, quoi. Mais c'est très présent aussi dans les entretiens. Après, il faut aller regarder en profondeur. En fait, quand les gens refusent les stéréotypes de genre, parfois, il y a la menace de restéréotyper les choses un peu à l'envers, quoi. Et du coup de ne pas échapper à la binarité des catégories du masculin et du féminin.
Moi, du coup, j'avais une question, parce que dans votre livre, vous parlez à un moment du fait que le rire, c'est du côté des femmes, et le faire rire, c'est plutôt du côté des hommes. Et du coup, je me demandais si vous avez d'autres éléments sur cet aspect de faire rire, comme peut-être...
Tout à l'heure, je pensais à... Tout à l'heure, quand Kevin montrait ces chiffres-là, je pensais aux travaux sur les petites annonces, vous savez, cherche homme, drôle, voilà. C'est la drôlerie valorisée, quoi, dans les petites annonces. Il y a des travaux de De Saint-Guy là-dessus qui commencent à dater, mais je suis sûre qu'on retrouverait ces catégories qui ont une permanence sur l'humour, le rire, etc., une permanence longue des catégories. Et oui, alors on sait ça. Je vous citais tout à l'heure un psychologue américain, Provine, qui a fait des enquêtes, pour le coup, en observation située et tout ça. Et il montre que, alors il a suivi des couples dans des restaurants, des choses comme ça. Il montre que c'est l'homme qui a l'initiative des blagues et c'est la femme qui rit et qui demande. Et c'est une des attentes de genre forte vis-à-vis du sexe masculin, c'est qu'il fasse rire. Et moi, dans mon enquête, à un moment donné, c'est une des dernières interviews que j'ai faites avec un monsieur d'un certain âge, 70 ans, qui était directeur d'une DRAC de Lyon, et sa femme, bourgeoisie culturelle, origine versaillaise, bon, voilà. Et elle me dit, elle assume complètement le fait, elle me dit, ah, mais moi, dans notre couple, moi, j'aime rire, mais l'initiative des blagues, c'est mon mari, c'est absolument pas moi. Donc voilà, le faire rire, c'est un bastion masculin, et la féminisation de la scène comique, c'est quelque chose d'assez récent finalement, hein, c'est les années 70. C'est les conséquences longues de mai 68, quoi, mais c'est très récent. Donc oui, il y a eu des travaux. Il y a aussi un bouquin de Nelly Kemner qui s'appelle Le pouvoir de l'humour, où là, c'est plutôt vu du côté de l'offre culturelle comique, avec la féminisation de l'offre culturelle comique qui est intéressant là-dessus, sur comment les femmes se sont appropriées le faire rire. Après, je pense aussi à un autre travail d'une historienne, Colette Cognier, que m'avait conseillé Christine Détré, si elle est toujours là, sur le silence des filles, et qui montrait à partir de journaux biographiques de filles du début du XXe siècle, comment le rire était présent dans les familles. Quand elles sont enfants, d'ailleurs, le rire est toléré. Tiens, ça plairait à Kevin. Quand elles sont enfants, le fait qu'elles soient des petites, qu'elles soient susceptibles d'amuser la galerie, bon, alors sous certaines formes, hein, très bienséantes, bienveillantes, etc., c'est valorisé. Et moins après, quand elles seront adultes, parce que là, on passe aux choses sérieuses, il faut trouver un mari. Donc, mais dans la famille, c'est valorisé. Mais elle montre, Colette Cognier, pour faire le lien avec votre question, que voilà, le faire rire est valorisé dans l'enfance, on va dire, pas dans la petite enfance, mais dans l'enfance, le rire est valorisé, puis après, de moins en moins. Mais que par contre, c'est une prérogative masculine, le faire rire. Et là, je vous renvoie à une autre historienne, Anne-Marie Zone, son livre Soit un homme, où elle explique comment dans les lycées bourgeois de province, puisqu'elle a travaillé sur ce genre d'archives, à la fin du 19e et au 20e, se met en place une forme de domination, moins par l'agressivité physique, mais par le discours, qui fait une énorme place au rire et qui réserve le faire rire aux garçons. Oui, il y a beaucoup de travaux, ça, en histoire, là-dessus.